Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique avec Caroline Entregue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors une visite à deux en duo, tous les deux. Pourquoi? Tu m'emmènes où?
Le pays d'arrêt d'histoire déménage, alors on va en profiter pour faire une excursion en dehors de leur territoire.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire mande et Lotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, en ce jour, on peut le dire à nos auditeurs, de vent et de pluie, on est parti en plus en Nord-Lozère. On est où exactement, Caro ?
On est ici au cœur de la montagne de la Margeride. Alors la Margeride, c'est la plus grande entité paysagère de la Lozère. Elle est presque tout entière faite de granit. C'est une unité paysagère qui a longtemps été jugée comme morne jusqu'au 19e siècle et à une époque où du coup les déplacements se faisaient plus lentement à cheval et donc ce grand territoire vaste paraissait très ennuyeux, ce qu'il n'est pas. Bien sûr, on va le regarder aujourd'hui. C'est souvent des plateaux un peu bosselés sur plusieurs kilomètres où se succèdent un peu de légères petites élévations arrondies. La transition reste douce entre les espaces qui sont ouverts et boisés. Les espaces boisés de pins sylvestres sont souvent ici pâturés, ce qui les laisse quand même assez ouverts. Et devant nous, donc, ce paysage très ouvert composé de limagne. Alors le terme limagne, ça désigne une petite plaine fertile, encadrée par les montagnes. Du coup, ce mot a son origine de limon, qui veut dire boue, et donc nous sommes à Saint-Alban sur Limagnole.
Voilà, on s'est arrêté au pied du village, on le voit, on voit ce monticule qui abrite le village et en haut son château.
Ben c'est justement là, Ludo, que je te propose d'aller. On va visiter la partie de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban et son architecture. Il y aurait beaucoup à dire sur Saint-Alban, même le village. Peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle visite radiophonique. Et là, on va se concentrer vraiment sur l'architecture de l'hôpital.
Alors, quelle est l'histoire de ce lieu, Caro ?
Rien que l'histoire du lieu pourrait faire l'objet de nombreuses émissions. Pour réduire un petit peu, c'est un lieu très important pour la Lozère et l'histoire plus générale de la psychiatrie. Mais nous, on va se concentrer vraiment sur la partie architecture. Donc, en 1821, c'est un frère de l'ordre Saint-Jean de Dieu qui s'appelle Hilarion Tissot qui fonde ici une maison pour accueillir ce qu'on appelait à l'époque les aliénés qui sont transférés à Saint-Alban quand le préfet du département décide de racheter le château de Saint-Alban. L'asile départemental, il est créé par une ordonnance royale le 19 janvier 1928 et il accueille des malades du département de la Lozère, des départements limitrophes, la Haute-Loire, l'Aveyron, le Gard, mais aussi la Seine et le Haut-Rhin et également de nombreux patients venus d'Algérie. Donc ce que je t'en propose, c'est qu'on prenne la voiture et qu'on aille s'immerger dans le site de l'hôpital psychiatrique.
Allez, allons-y. Allez, on était en bas du village, on est monté à la cime de ce petit monticule. On n'a pas parlé de l'altitude, on est à quelle altitude, Caro, à peu près ici à Saint-Alban ?
On est à plus de 1000 mètres d'altitude.
Alors là, tu m'as fait faire le tour du château par un endroit qui m'est méconnu, je ne suis jamais passé par là. Et on se retrouve devant un bâtiment en pierre. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ?
Alors ça, c'est l'hôpital psychiatrique en lui-même. Nous sommes devant le bâtiment administratif. C'est un bâtiment tout en granit qui a été conçu par l'architecte départemental Germain Durand entre 1895 et 1899. C'est le bâtiment administratif. Alors là, on voit un des peignes. En fait, c'est un bâtiment à l'origine où il y avait trois ailes, comme celles qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment sur deux niveaux, tout en granit, couvert en lauze de schiste. Et on avait comme ça trois bâtiments perpendiculaire à la pente, avec au milieu des espaces de liaison. En 2015, le site a été complètement remanié. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'aile que l'on voit devant nous, le bâtiment administratif, et une autre aile dans le fond. Et au milieu, en 2015, voilà, tout a été remanié pour l'accueil des patients. Donc là, c'est vraiment l'hôpital en lui-même. Après, on va voir sur le site de l'hôpital. En fait, c'est une ville dans la ville. On a plus d'une vingtaine de bâtiments sur ce site-là, sachant qu'il y a également un autre site sur le hameau du Villaret, qui est le bâtiment dit de Montessori, puisqu'on y avait une école Montessori là-bas, ainsi qu'une serre, qui est plutôt à 1,5 km de là. Voilà, c'est vraiment une ville dans la ville, mais en plus, avec plusieurs autres petits sites autour de Saint-Alban.
Alors c'est vraiment des matériaux typiques de la Margeride sur ce bâtiment.
Oui, donc sur ce bâtiment-là, on a vraiment un bâtiment en pierre apparente, un bâtiment ordonnancé, donc on voit les fenêtres tout alignées les unes sur les autres, un petit peu d'arc surbaissé sur les pierres de taille de granit, donc au-dessus des fenêtres, on a un petit arc surbaissé, typique de la fin du 19e. Ce que je te propose, c'est qu'on descende un peu pour aller voir le château, qui est le site historique un peu de l'hôpital, et ensuite la chapelle.
C'est vraiment un grand complexe quand on voit le château et l'entrée de l'hôpital en bas. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Donc là, on a fait le tour pour revenir devant le château, Caro.
Oui, ben là, on est devant le château qui est le lieu historique de création de l'hôpital. Mais il avait bien sûr une histoire avant. On sait qu'il est mentionné en 1188 en hommage à Guérin d'Apcher. Puisqu'on est ici sur le château de Saint-Alban qui faisait partie de la baronnie d'Apcher. Et on sait voilà, qu'il a sans doute été élevé au XIe et XIIe siècle par les barons d'Apcher. Et ensuite, par contre, il a été très agrandi au XIVe. Et ensuite, une grosse campagne de raménagement au XVIIe siècle où le bâtiment, donc la forteresse médiévale, va être transformée comme beaucoup en demeure plutôt de plaisance, d'apparat. Voilà. Et ce que l'on peut dire, parce que quand même on peut avoir une petite pensée pour Nelly pendant cette visite, le bâtiment a appartenu à Charles de Molette, c'est-à-dire le fameux marquis de Morangiès. Et il restera dans sa famille jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'architecture de ce château, Caro ?
Alors c'est un château qui s'organise autour d'une cour avec ce qu'on appelle des loggias, donc c'est des terrasses couvertes avec des poteaux. C'est un bâtiment assez intéressant parce qu'il est composé d'une pierre que l'on a nulle part ailleurs, ce fameux grès rouge, grès rose que l'on voit ici, tu vois, de l'extérieur autour des fenêtres. Donc ça, c'est la pierre locale de Saint-Alban. On en parlera quand on parlera du bâtiment administratif qui est juste à côté. En fait, c'est un grès rouge qui vient de la carrière du Rouget, qui est sur la commune de Saint-Alban. Ensuite, le château mériterait en lui-même une visite. Vraiment, ce qui fait l'architecture remarquable de ce château, c'est ses galeries superposées et sa cour intérieure de grès rose et jaune qui est utilisée voilà, pour l'encadrement des portes, la cage d'escalier. Et donc, on le verra dans l'actualité, mais c'est un château qui est ouvert aujourd'hui puisque c'est l'endroit où il y a l'office de tourisme et qui a vocation à être encore plus ouvert et d'être un lieu culturel à l'échelle de Saint-Alban.
Alors en se déplaçant juste un peu, on a tourné, on se retrouve devant la façade de sud donc du bâtiment avec une façade impressionnante, une belle façade, une porte imposante.
Oui, c'est la façade principale qui a été réaménagée. C'est aujourd'hui la façade principale du château qui a fait l'objet du coup des travaux au XVIIe siècle dont on a parlé. C'est la façade la plus imposante. On va trouver ici une porte monumentale avec deux frontons qui sont imbriqués. À l'étage, on les voit les deux grandes fenêtres à meneaux et traverses sur lesquelles il y a également un fronton. Il y a des pilastres très imposants aussi. Et tout ça a été construit avec cette fameuse pierre du Rouget qu'on va retrouver sur le bâtiment qui est juste derrière nous, Ludo, qui est le bâtiment administratif. Alors ce bâtiment administratif a été construit en extension du château. En fait, le château a eu de nombreuses extensions liées à la vie de l'hôpital psychiatrique. Et dont cette extension qui s'est fait non accolé au château, un peu à côté, à l'entrée finalement du site du château. C'est un bâtiment qui date de 1866 et qui est remarquable par sa façade, où tous les encadrements et les chaînages d'angles sont en pierre du Rouget, donc un peu rose, jaune, ce fameux grès. Et là, on trouve voilà, un bâtiment sur trois niveaux, très ordonnancé, donc les fenêtres qui sont alignées les unes aux autres, les arcs surbaissés comme on l'a vu tout à l'heure. Et on en parlera, mais c'est un bâtiment qui aujourd'hui est vacant.
Et du coup, derrière nous, il y a un autre grand bâtiment qui correspond à quoi ?
Alors, c'est l'ancienne IFSIL, donc l'ancienne école d'infirmières, qui est un énorme bâtiment tout en long, là par contre construit de granit, avec une très belle cour qu'on ira voir, Ludo, un jardin qui donne une très belle vue sur tout le site de la ville de Saint-Alban. Voilà. Donc aujourd'hui, ce bâtiment-là est également partiellement vacant, et c'est voilà, l'ancienne école d'infirmières.
Beaucoup d'ouvertures, hein ?
Très 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 ouvert en effet.
Donc on est rentré par cette magnifique porte à l'intérieur du château et on rentre dans cette cour qui est tout aussi magnifique, Caro.
Oui, c'est une cour qui est remarquable, qu'on peut avoir la chance de visiter assez facilement puisque c'est le lieu de l'office de tourisme. Il faut savoir qu'on est ici sur le chemin de Saint-Jacques, donc cet endroit est quand même relativement bien visité. On est dans cette fameuse cour intérieure où face à nous, on a ces trois galeries, toutes en grès rose, avec des colonnes sculptées. On a également des balustrades taillées et on a ici à notre droite, l'élévation est, où on va retrouver un peu la même façade que sur l'extérieur, avec une porte très richement sculptée avec des pilastres, ces fameuses colonnes sculptées qu'on voit sur la droite, et au-dessus, des fenêtres à meneaux et traverses. Donc on est sur une cour qui est très richement décorée, avec cette pierre de grès qui lui donne un côté un peu sudiste, qu'on a peu l'habitude de voir ici en Lozère. Donc le fronton de la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle un fronton à enroulade. On le voit bien, ça fait comme des petits escargots en motif. On est vraiment ici sur un décor 17e. On est après la Renaissance, mais on a vraiment ici encore un peu cet esprit Renaissance et classique dans l'ensemble des constructions que l'on peut voir.
Voilà, et l'été, il peut y avoir des spectacles, des concerts intimistes, des petites pièces de théâtre. Ça me rappelle un peu la cour du château du Boy.
Oui, c'est vrai qu'on a en Lozère de très belles cours intérieures de château, dont celle du Boy, qui avait elle aussi à l'origine certainement ce système de loggia. Alors, des loggias comme celle-ci, on en trouve pas mal aussi dans Mende. Voilà, c'était pas mal à la mode à cette époque de la Renaissance.
Allez, un peu plus haut, on est remonté à la chapelle Saint-Pierre, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Ludo. Alors, on est arrivé ici sur la chapelle, qui est une chapelle récente, puisque l'architecte des bâtiments de France, il a ordonné la démolition de la chapelle historique au XIXe siècle, qui était accolée au château donc, que l'on vient de visiter. Et donc, l'hôpital a fait le choix de construire une nouvelle chapelle. Donc, cette chapelle, elle a été construite par Jean Lyonnais, qui était aussi architecte départemental, en 1965. Et cette chapelle est remarquable. De l'extérieur, on le devine peu, mais à l'intérieur, on a une architecture un peu comme une coque de bateau, avec une charpente bois totalement apparente. Et elle contient énormément de mobilier qui ont été faits en lien avec les patients. Donc le mobilier de la chapelle utilise ce fameux grès rose dont on parle depuis tout à l'heure. Et les patients ont travaillé avec le sculpteur qui s'appelait Marion pour réaliser l'ensemble des mobiliers et le dessin des vitraux. La chapelle n'a subi aucun travaux de rénovation, elle est en parfait état et aujourd'hui accueille un peu des offices religieux et elle peut accueillir également des concerts. Donc là on est sur le porche, qui est un porche d'entrée couvert. On a devant nous une ouverture un peu comme ça, triangulaire, qui fait un petit arche, qui reprend la forme de la porte d'entrée, avec justement Saint-Pierre qui tient les clés de l'église. On est sur un mobilier d'art brut, je ne l'ai pas précisé, et cette porte en bois sculpté en est une des traces. Donc on accède par un petit escalier, et donc cette partie en pierre vient se décrocher de la façade et créer ce petit porche, cette circulation. La chapelle est accolée avec le bâtiment commun dans lequel il y a des bâtiments administratifs, des locaux associatifs. Sur la façade ouest, on retrouve des lucarnes pignons qui rappellent un peu l'architecture du Cosme-Jean, par exemple, mais sur des lignes beaucoup plus élancées.
C'est habituel, Caro, qu'il y ait des vitraux en triangle comme ici ?
Mais alors là, vraiment, Jean Lyonnais a vraiment travaillé cette notion. On avait parlé sur la chapelle du Mont-Lozère de la transcendance, c'est-à-dire du fait de s'élever vers le ciel, d'où ce plafond un petit peu en voûte brisée qui reprend l'architecture gothique et qui est très élancé. Et donc les vitraux sous forme de deux triangles en biais viennent conforter ce sentiment d'élancement.
Ça, je viens de comprendre, je me disais, il y a des similitudes avec la chapelle du Mont-Lozère, donc ça, je viens de comprendre pourquoi. Il y a un beau bénitier aussi.
Oui, donc le bénitier, comme l'ensemble du chemin de croix et l'autel, font partie de tout ce mobilier d'art brut qui font que cette chapelle a été classée, notamment inscrite, monument historique. C'est vrai que la similitude avec la chapelle du Mont-Lozère, par la charpente apparente et cette notion de triangle et de verticalité, nous fait rappeler la chapelle du Mont-Lozère. Alors il faut savoir que Jean Lyonnais, l'architecte départemental, lorsqu'il a pris sa retraite, c'est Jean Pétavin qui a pris la suite. Donc on peut imaginer que cette chapelle a certainement inspiré Jean Pétavin pour la construction de la chapelle du Mont-Lozère.
Au 56, 7, 8, peu importe, de la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer. Seul et parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent. Décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus taillés dans l'ébène qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut un miroir nous réfléchit. J'enlace mélodie.
T'avais raison, Carouin, c'est un vrai village. On a poursuivi un peu plus loin et on est dans de nouveaux bâtiments, malheureusement une nouvelle fois désaffectés. C'était quoi ici ?
Alors ça, ce sont les pavillons, il y en a quatre, qui ont été créés en 1968 par André Poulain, architecte. Et donc l'idée, c'était de concevoir quatre pavillons hospitaliers dans le but d'accueillir les malades dans un système de petites colocations. Donc on a des bâtiments avec une architecture contemporaine, moderne, plutôt très marquée. On va le voir tout à l'heure sur la façade, on va retrouver du béton brut, de la pierre calcaire en parement et ces toitures avec de l'ardoise où on dirait que le toit se replie sur le côté. Pour le dire à nos auditeurs, on a un toit, un bâtiment avec un toit de pente et sur la façade arrière, on a le bâtiment qui fait également un triangle. Donc l'idée de ces bâtiments, en fait, ils font l'objet d'une grande opération d'ensemble qui avait pour but de former un nouveau complexe hospitalier. Et donc ce projet porté par André Poulain et Jean Pétavin, dont on parlait tout à l'heure, ce ne sera finalement jamais construit. Mais on a quand même ces quatre pavillons qui ont été aménagés. Donc comme je disais, ils sont composés de deux volumes. Donc la partie chambre, où en fait chaque patient avait une chambre individuelle, donc vraiment la partie nuit, et sur le retour duel, la partie jour. Et la partie jour, c'est une grande pièce de vie autour duquel on va retrouver une cheminée, un foyer. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un petit foyer de vie avec une vingtaine de patients.
Du coup, pourquoi c'est laissé à l'abandon ? C'est qu'il n'y a plus assez de patients ? C'était que c'était désuet, donc on a construit autre chose pour déplacer les résidents ?
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément aux normes. Donc, il aurait fallu faire des gros travaux de rénovation énergétique. En fait, quand le bâtiment a été raménagé dans l'ancienne partie avec ces fameux trois bâtiments en peigne, en 2015, ce site a été désaffecté pour replacer l'ensemble des patients dans le bâtiment neuf.
Je ne t'ai pas demandé tout à l'heure ce que ça signifiait en peigne. C'est quoi exactement ?
Alors, en fait, c'est qu'on avait trois bâtiments perpendiculaires à la pente et un grand bâtiment qui faisait tout le long. Par exemple, en termes d'architecture en peigne, il y a l'évêché de Mende. Voilà. Donc ça, c'est des bâtiments en peigne. Donc l'idée, c'est qu'on est plutôt ici, pas sur une forme de bâtiment hôpital, mais plutôt sur une typologie de maison. Et donc c'était vraiment l'idée ici de proposer une nouvelle alternative d'habitat pour des malades, tout en leur permettant d'avoir une autonomie la plus grande possible. Et donc on a ici un mini village, on va retrouver une place centrale, des petites buttes enherbées, de la végétation. On a vraiment l'idée ici, l'envie de concevoir un petit village de patients avec ces quatre pavillons. Pour rebondir sur l'architecture, je n'en ai pas parlé, mais il y a également le dessin des menuiseries qui est très joli, qui sont en bois, avec des petites ventilations en verre. Alors bon, lorsqu'ils seront rénovés, on imagine que ces menuiseries vont être supprimées. Mais on a vraiment une très belle architecture ici, moderne. On a inventorié ces bâtiments dans le cadre de l'architecture contemporaine remarquable. On verra s'ils passent pour être labellisés.
Allez, un peu de verdure après toutes ces pierres. On longe une allée de sapins. Là, tu m'amènes où, Caro ?
Donc là, je t'amène à ce qu'on appelle le cimetière des fous. Donc là, on longe l'allée centrale bordée de sapins. Et c'était le cimetière des patients de l'hôpital, qui aujourd'hui ne sont plus, bien sûr, enterrés ici. Donc face à nous, un portail en granit avec deux pylônes de poteaux sculptés et une croix en granit.
Ah oui, donc il reste une tombe.
Oui, il reste quelques tombes qui sont en réalité la tombe des parents de Tosqueyès qui a voulu les faire enterrer ici pour protéger ce site du cimetière. Donc pour décrire à nos auditeurs, on est dans un cimetière clos bordé de murs en granit, très boisé, qui a été complètement aménagé. Et on retrouve une stèle qui raconte l'histoire de ce cimetière.
Ouais, c'est un très bel endroit, ce cimetière, très, très émouvant quand on imagine tous ces corps enterrés ici et ce que c'était avant, et en voyant la tombe des parents de Tosqueyès. On a une actu sur tout cet ensemble de bâtiments ici à Saint-Alban, Caro ?
Mais oui, c'est justement pour ça qu'on est venu aujourd'hui, puisqu'en janvier 2023, il y a plusieurs bâtiments qui ont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. Donc le bâtiment administratif qu'on a vu à l'entrée du site à côté du château, la chapelle que l'on a visité et ici ce cimetière des fous. Ils ont été classés à la fois pour leur architecture mais aussi par la force de l'histoire qui s'est déroulée ici dans ces lieux. Il y a un fonds aussi qui a été créé aux archives départementales lié à l'histoire de l'hôpital en 2023. Et aujourd'hui, il y a plusieurs projets et réflexions en cours, parce qu'on a vu beaucoup de bâtiments sont aujourd'hui vacants. Donc il y a un petit groupe qui s'est créé avec un accompagnement à DEFPAT autour de la mairie, de l'office de tourisme, du conseil départemental et de l'hôpital pour essayer de savoir comment on peut venir retravailler sur ce site et utiliser tout ce patrimoine bâti qui est aujourd'hui vacant. Et en parlant du conseil départemental, le conseil départemental est en train ou a racheté le château avec un projet de mise en valeur et de création d'un site culturel à la fois autour de l'histoire de la Margeride, mais aussi autour de l'histoire plus particulièrement de l'hôpital et de cette grande aventure, notamment tout ce qui va être art brut et artistes qui ont été accueillis ici.
On a une anecdote pour briller en société ?
Ben justement, Ludo, en parlant d'artistes et d'art, est-ce que tu sais qui a été hébergé ici, dans le centre hospitalier pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Il me semble savoir, mais je vais te laisser l'annoncer à nos auditeurs.
Alors, il s'agit de Paul Éluard qui a été en fuite et il arrive ici en novembre 1943 avec sa femme à l'hôpital de Saint-Alban où il restera jusqu'en février 1944. Il va notamment décrire son expérience dans un recueil de poèmes qui s'appelle « Souvenirs de la maison des fous ». Et donc on peut finir cette visite, si tu veux, par le petit poème qui est écrit sur la stèle du cimetière des fous. 300 tombeaux réglés de terre nue, 300 morts masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu, les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer, les inconnus sont morts dans la prison, leur cimetière est un lieu sans raison.
Paul Éluard. Merci Caro pour cette visite très intéressante, on va aller où le mois prochain ?
Alors on va parler de l'eau, mais pas de la pluie comme aujourd'hui, juste de l'eau et du Lot.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire mandé Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.